l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe.
Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct Drôme-Ardèche.
Bonjour à tous, bonjour Ardiana.
Bonjour Anna.
Et bonjour Blanca, on accueille Blanca aujourd'hui avec nous.
Oui, bonjour.
Blanca, du coup, tu viens de démarrer un stage auprès du Centre Europe Direct Drôme-Ardèche et tu viens de ?
De Salamanque, Espagne.
D'accord. Alors, on aura l'occasion de t'entendre à plusieurs reprises dans notre émission. Et d'ailleurs, un petit peu aussi plus tard, tu nous parleras de l'agenda de notre Centre Europe Direct pour les mois d'avril et mai. Mais tout d'abord, donc, Ardiana, quel est le sujet de notre émission aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, on a une très belle activité du lycée hôtelier de Thun. Et où deux élèves ou des gens ont participé au trophée Europe à table. Et j'espère, Anna, que tu vas nous en dire un petit peu plus sur cette activité, en quoi ça consiste, ces trophées Europe à table, et dans quel cadre sont-elles organisées et quel est le contenu de ces trophées.
Tout à fait. Les trophées Europe à table se sont donc tenus les 13 et 14 mars 2023, tout récemment. Donc c'était la deuxième édition. Et c'est un projet d'envergure nationale organisée par la Fédération française des Maisons de l'Europe. Et nous, en tant que Maison de l'Europe Drôme-Ardèche, nous y avons participé en accompagnant le lycée hôtelier de Thun et donc deux de ses élèves qu'on écoutera tout à l'heure, qui nous témoigneront de leur expérience, Elaya et Alex, qui ont participé à cette rencontre donc, qui se déroulait cette année en Lozère, à Saint-Chély-d'Apcher, au sein justement d'un lycée hôtelier. Et l'idée en fait de ce concours, c'est de mettre en avant les enjeux et les défis alimentaires auxquels sont confrontés les Européens.
Il y avait des intervenants extérieurs à ce concours ?
Tout à fait. En fait, c'est donc un concours que nous avons, qui a été organisé donc, et auquel nous avons participé, auquel participaient des représentants de la Commission européenne. Il y a eu un temps, justement, une conférence intitulée « Comment manger sain en Europe dans un monde en plein bouleversement ?» avec, voilà, comme je le disais, la chef de la Commission européenne en France, Valérie Drézé-Humez, mais également une personne, Robert Egon, qui représentait le département de la Lozère, une chercheuse allemande, Sina Ribach, dans le domaine de l'agroalimentaire, également, eu aussi une chef d'un restaurant à Rodez, en Aveyron, Émilie Rousset, qui était là donc, pour évoquer ensemble ces défis auxquels sont confrontés les citoyens et l'Europe en termes d'alimentation.
Tout à fait. Le lycée hôtelier, il est vraiment au cœur de ces problématiques.
De ces questions-là.
D'alimentation.
Et donc, le cœur de ce trophée, de ce concours, de ce trophée Europe à table, c'était aussi mettre en lien cela avec l'alimentation durable, avec l'agriculture. On a fêté d'ailleurs en 2022, juste l'année dernière, les 60 ans de la politique agricole commune. Et c'était également mettre cela en perspective aussi des 60 ans, un autre anniversaire du traité de l'Élysée, qui ont lieu cette année, en 2023. Donc il y avait également à ce concours une orientation franco-allemande avec la présence d'invités internationaux et aussi la déclinaison de certains mets avec des ingrédients allemands, notamment de la bière.
Et en quoi consistait l'épreuve pratique, justement ?
Alors justement, l'épreuve pratique, c'était donc 6 binômes apprentis en hôtellerie de différentes régions de France, dont justement nos deux représentants de notre région du lycée hôtelier de Thun, l'Ermitage, Alex et Elaya. L'épreuve pratique consistait en plusieurs plats réalisés avec différents produits locaux. Donc les demandes, disons les requis, étaient d'utiliser d'une part l'agneau de Lozère, Lozère, puisqu'on se trouvait en Lozère, qui est donc une indication géographique protégée, ainsi que la châtaigne des Cévennes, qui a tout récemment reçu une appellation d'origine protégée. Donc l'idée, c'était de la décliner de manière différente, et vous entendrez là dans l'interview Alex nous décrire le menu. Alors là, attention, si vous écoutez cette émission à l'heure du repas, vous allez saliver. L'idée, c'était de décliner ces différents produits, de les présenter de manière aussi pertinente, de présenter ça dans un contexte aussi européen, avec les défis justement que j'ai cités tout à l'heure en lien avec l'alimentation. Et puis, il y avait, comme je vous disais aussi, la déclinaison avec la gastronomie allemande et la dimension notamment de la bière qu'ils ont utilisée pour la préparation des plats. Voilà. Donc nous, en tant que Maison de l'Europe de Rome Ardèche, on a accompagné le lycée hôtelier de Thun dans cette démarche-là. On a aussi fait animer avec eux, la classe en entier, des simulations du Parlement européen où ils devaient faire un jeu de rôle dans lequel ils devenaient eurodéputés, ministres ou lobbyistes.
Donc une phase de sensibilisation.
De sensibilisation dans lequel ils discutaient des enjeux de l'alimentation durable. On a fait ces actions-là pendant les mois précédents, une expo sur le pacte vert, par exemple. Et puis, tout cela se concrétisait par la participation de deux de ces jeunes, une jeune fille, Elaya, et un jeune garçon, Alex, chacun dans des domaines différents, cuisine ou service, qui présentaient du coup leur plat et leur compétition. Donc, c'était un petit peu un masterchef européen, à la sauce européenne. Voilà. Mais on va écouter maintenant leur, si tu veux bien, on va écouter leur interview. C'est Floriane qui les interviewe pour nous. Donc on va entendre ce que Elaya et Alex ont vécu de cette belle expérience.
Donc je m'appelle Bonner Alex. Je suis étudiant au lycée hôtelier de l'Ermitage dans la Drôme. Je suis en terminale bac pro cuisine et j'ai eu l'occasion de participer au concours Europe à table pour la Maison de l'Europe de Drôme Ardèche.
Du coup, je m'appelle Elaya L'Enfant, je suis au lycée hôtelier de l'Ermitage. Je suis en terminale bac pro service. Du coup, j'ai pu participer aussi au concours au repas à table.
Alors, si je vous demande à l'un ou les deux de me parler du concours, comment vous expliqueriez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est que Europe à table ?
Europe à table, c'est un concours pour pouvoir faire un plat. Et pouvoir mettre dans ce plat un lien avec un pays qui vient de l'Europe. Donc pour mettre en avant un pays, en tout cas nous, quand on y était, c'était l'Allemagne qui devait être mis en avant. Donc que ce soit dans le plat ou même dans la boisson, on devait avoir un lien pour justement mettre en avant ce pays.
Pour moi, Europe à table, c'est plus qu'un concours, parce qu'on a eu l'occasion de participer, nous, au trophée Europe à table, et c'est ça plutôt le concours. Mais j'expliquerai plutôt ça comme une démarche visant à relocaliser le produit et l'alimentation en Europe et qui vise vraiment à nous ouvrir les yeux par rapport à la consommation, aux actions mises en place par l'Union européenne à travers l'alimentation de tous les jours et comment on se nourrit, enfin, ce genre de choses.
Et justement, tu parles du lien entre l'Union européenne et ce qu'on met sur la table. Est-ce que, à travers ce concours et peut-être ce que vous faites au quotidien, ce lien, il était déjà présent ? Où vous avez découvert ça à ce moment-là ?
Bah, on peut dire que dans la formation vraiment initiale du bac pro cuisine, on n'en parle vraiment pas beaucoup, mais personnellement, à travers de l'apprentissage plutôt personnel, j'ai pu me renseigner sur les labels de qualité mis en place par l'Union européenne, sur la PAC mise en place par l'Union européenne, toutes les aides agricoles à la consommation. Donc j'avais quand même déjà une base là-dessus. Mais donc la conférence et les différentes activités mises en place lors des trophées, c'était vraiment une ouverture d'esprit par rapport à ce domaine.
Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler de ce que vous avez présenté comme plat le jour J pour le concours, justement ?
Donc, en plat présenté, pour le plat chaud, la viande, le produit imposé, c'était l'agneau de Lozère qui bénéficiait d'une indication géographique protégée. Donc, nous, l'objectif de la recette, c'est qu'on est parti sur une recette vraiment zéro déchet. On n'a rien jeté du tout. Et donc, on a proposé une baloutine d'agneau farcie au chou vert pour rappeler l'Allemagne à travers le chou. On a proposé une sauce à la bière ambrée et on avait fait une infusion avec tous les déchets alimentaires propres à la consommation, donc les épluchures, tout ça. On avait fait une infusion qu'on avait mélangée à un caramel et qu'on avait ensuite déglacée à une bière locale de chez nous pour faire une sauce vraiment basée sur le zéro déchet. Il y avait un ravioli coloré à la betterave rouge avec une farce à l'oignon et au fenouil. Une paupiette avec le reste de la farce de l'agneau, parce que souvent il en restait par rapport aux quantités qu'on enlevait. Donc avec la farce de l'agneau, on a fait une paupiette d'épinards, donc un petit beignet d'épinards auquel on recouvrait les feuilles. Et une poire pochée à la bière, la même bière qu'on utilisait pour déglacer la sauce. Donc on a fait infuser les poires dans cette bière pour donner du goût à la bière et pour ensuite déglacer le caramel. En sachant que ce plat était présenté sur une assiette du vaisselier Revol, qui est très proche de chez nous, et c'était une assiette qui était aussi zéro déchet et qui était créée à partir des effluves d'argile qui ont été récupérés, triés et rempactés pour faire une assiette. Et donc sur le dessert, c'était un délice au marron en plusieurs textures. Il y avait un biscuit moelleux, un biscuit croustillant, un biscuit mi-cuit, une mousse très onctueuse, un insert au citron pour relever un peu le tout, et au-dessus, une ganache au chocolat blanc Valrhona et au cèpe, donc des cèpes bien de chez nous. Et pareil, une recette avec le moins de déchets possible dans la réutilisation toujours du produit jusqu'à la fin.
Génial, mais ça donne faim. On aimerait bien goûter tout ça. Effectivement, on voit la mise en avant de produits locaux. Est-ce que ça aussi, dans votre démarche, dans la perception d'un futur dans vos carrières respectives, c'est quelque chose que vous aimeriez reproduire?
Je trouve que par exemple quand on va dans les régions et tout, souvent on nous propose des plats qu'on voit un peu de partout, enfin qu'on peut voir de partout. Mais je trouve que si on cherche pas bien, je trouve que c'est moins facile à trouver des restaurateurs qui se mettent vraiment sur le local. Sauf si c'est quelque chose qui est très connu et très populaire et qui savent que les touristes vont venir. Mais je trouve que ça se perd et je trouve que oui, ce serait super intéressant de travailler là-dessus. Et je trouve que des fois, sur certains trucs, c'est dommage qu'à l'école, on le voie pas assez. Enfin, on voit des choses de notre région qui sont connues, la plupart des choses. Mais je sais que, par exemple, en service, on va avoir beaucoup de choses, on va avoir les boissons et tout qui peuvent être connues des régions. Par exemple, les vins, les cépages, tout ça. Mais moins le produit en lui-même, pour qu'au moins, comme ça, on sache vraiment d'où ça vient. Parce qu'on sait les AOP, les AOC, mais concrètement, je trouve que quand on y est sur place, je trouve qu'on perd ce côté-là. Donc ce serait très intéressant de poursuivre là-dessus et essayer de continuer.
Qu'est-ce que vous retenez tous les deux de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté, que ce soit à titre personnel ou plutôt pour votre formation?
Au niveau de cet événement-là, ce que je retiens surtout, c'était l'organisation qui était de A à Z, pas vraiment millimétré, mais qui était vraiment, on sentait accompagné du bout au bout. Et j'ai apprécié les rencontres qu'on a pu faire des différentes écoles, des différentes maisons de l'Europe, les interventions qu'on a pu avoir le soir avant le concours, donc que ce soit la conférence ou bien le département de la Lozère qui avait mis en stade des plans, des stands de dégustation, tout ça. Donc vraiment, c'était une super expérience en cuisine. On a eu de vrais beaux produits, que ce soit l'agneau de Lozère ou donc la châtaigne des Cévennes qui vient de recevoir une AOC depuis très très récemment. Et donc c'était vraiment très très agréable. C'était une opportunité qu'on a pu avoir grâce à la Maison de l'Europe de Valence. Et donc c'était vraiment super.
Un peu la même chose, mais après moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tout le long du concours, quand des fois c'était pas nos cuisines, on a là-bas, donc du coup dès qu'on savait pas trop où était quelque chose, on pouvait poser la question, on pouvait aller parler. Il y avait des cuisiniers qui étaient justement là exprès pour nous aider, pour dire c'est ici. Enfin on n'était pas lâchés à l'abandon. On peut toujours poser des questions à n'importe quel moment. Enfin c'était l'impression que ça donnait, c'était très rassurant. Et comme l'a dit mon collègue, toutes les conférences qu'il y a eu, c'était super intéressant. Ça, alors j'avoue, moi, je m'étais peut-être un peu moins renseignée qu'Alex, mais j'en ai appris beaucoup et ça m'a donné envie de chercher aussi encore plus loin, de réfléchir. Et il y avait deux Allemandes qui étaient dans la restauration et à la fin du concours, j'étais allée discuter avec elles et c'était super intéressant leur façon dont elles avaient de vraiment vouloir garder les recettes traditionnelles et certaines choses comme ça de leur côté et c'était super intéressant et ça donnait presque envie d'aller en Allemagne pour y goûter dans leur restaurant.
Justement, c'est la question que je voulais vous poser aussi. Est-ce que partir en mobilité en Europe ou ailleurs dans le monde, c'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé ou est-ce que ce concours permet justement, comme tu le dis, d'y penser maintenant et de se dire finalement ça pourrait avoir du sens ou pas, hein, y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais vous en êtes où justement par rapport à ça ?
Personnellement, je m'étais déjà posé la question de est-ce que j'irai voyager, mais après je sais qu'après ce concours c'est plus une envie de voyager, mais pour essayer d'y travailler, peut-être faire par exemple n'importe quoi, 3 mois dans un pays, 3 mois dans un autre, pour vraiment avoir cette culture et cette ouverture d'esprit, parce que chaque pays a sa façon de penser, à sa politique aussi, donc du coup chaque pays est différent.
Moi, même si j'avais déjà pensé à la mobilité internationale pour changer de pays et visiter d'autres cultures, j'apprécierais d'abord, comme nous a permis de le faire le concours, visiter d'abord les départements, les régions de France, et vraiment avoir une culture sur le terroir français bien plus élaborée pour ensuite que ça soit apporter ma culture aux autres pays ou pouvoir développer la leur par rapport à la France. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de bouger, que ce soit international ou même en France. Donc c'était vraiment très intéressant d'ouvrir les yeux, surtout que le département avait joué le jeu et nous avait présenté ses produits, les choses qu'il mettait en place pour que l'agriculture aille plus vite, mieux, qu'elle soit plus durable. Donc mobilité, oui, mais d'abord en France.
Merci. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation à tous les deux. Au nom de la Maison de l'Europe Drôme Ardèche, on est très fiers que vous ayez pu nous représenter à ce concours. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite à tous les deux. Et merci pour votre participation.
Mais on s'est régalé dans tous les sens du terme avec cette interview d'Alex et Elaya et leur expérience au trophée Europe à table. C'était très intéressant de voir leur démarche qui a de bout en bout à penser au développement durable.
Oui, très, très, disons, complète, très, très complète. Holistique.
Oui.
Ils ont pensé autant à un usage circulaire de toutes les ressources.
Zéro déchet.
Zéro déchet. Puis aussi, j'ai été sensible au fait qu'ils ont même pensé à la vaisselle.
C'est ça. Et ils ont choisi la vaisselle utilisée
était aussi avec une dimension locale. Enfin, ils ont vraiment, dans ce sens-là, en fait, vraiment aussi répondu à cet objectif de ce concours Europe à table, où l'idée c'était de mettre ça dans le contexte du pacte vert européen avec la dimension d'une économie et des activités qui sont avec un impact le plus diminué possible. Donc en effet, des usages de ressources les plus durables. Et ils ont vraiment du coup bien saisi cette dimension-là et pas que l'usage vraiment gastronomique. Quoi.
Tout à fait. Il y avait une réflexion très intéressante aussi. C'est au niveau de l'enseignement, pour que l'enseignement mette en valeur plus les produits locaux.
Oui.
Parce qu'on a toujours des références un peu générales. Et
oui.
La jeune fille a dit de façon très... c'était vraiment très bien. Mettons dans l'enseignement, éduquons nos jeunes avec les produits locaux et leur qualité, justement. Et on n'en manque pas en France.
Tout à fait.
C'était aussi l'ouverture d'esprit des jeunes. Hein, envie d'aller ailleurs, en Europe, de découvrir l'Allemagne suite à ce concours. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup de nous l'avoir proposé aujourd'hui dans notre émission, Anna.
Oui. Merci à Alex et Laïa et encore bravo. Bravo à vous d'avoir participé et puis en espérant que l'année prochaine, pour la prochaine édition des trophées Europe à table, d'autres représentants de notre région pourront participer.
On se régale avec une pause musicale maintenant et je laisse à Blanca de nous présenter la chanson qu'elle a choisie.
Oui, j'ai choisi une chanson qui s'appelle... Up to Something de Nas, qui vient de Pays-Bas. En fait, j'ai choisi ces chansons d'ici parce qu'il a participé au festival de musique européenne. Donc, ça, c'est une bonne raison pour les choisir.
Donc, écoutons Up to Something de Nas des Pays-Bas. All that I'm saying is that I'm staying true. Why don't you see it? Why don't you see it too? I'm running from this metal cage I'm putting. I'm running to leave.
Maintenant, donc, présentation des activités du mois pour le Centre Europe Direct de Romardèche. Blanca, dis-nous, alors, quel est notre programme?
Donc, pour le programme d'avril qui nous reste, on a un séjour avec le service national le dimanche 16. Et après, on a beaucoup d'ateliers qui traitent sur les thèmes de job d'été.
Alors, donc, pour le dimanche 16 avril, il s'agira donc du coup d'une participation au séjour du service national universel et nous proposerons à 10 des animations autour de la citoyenneté européenne que nous co-organisons avec les jeunes européens. Après, tu me disais donc du coup des ateliers job d'été. Mm-hmm. Donc là, il s'agit de quelle date?
Et il s'agit de mercredi 19 d'avril et après le mercredi 26.
Donc ces deux jours, nous serons sur un atelier de job d'été de 14h à 18h avec le Point Info Jeunesse de Valence. Et donc le mercredi 19, c'est à Valence, au Piche de Valence. Et le mercredi 26 avril, c'est à la médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe.
Oui, après on a aussi une présentation de partenaires en anglais pour le lycée Xavier Mallette le mercredi 26.
Donc ça, ce sera le mercredi 26 matin. Donc le lycée Xavier Mallette au Teil, qui voilà, dans le cadre de leur projet Erasmus, nous a demandé de présenter le pacte vert en anglais aux lycéens.
Oui, et pour continuer les activités de ces mois, on a une webinaire d'information sur les programmes Erasmus+, jeudi 25 avril.
Jeudi 25, voilà, tout à fait.
Oui, et après, on a aussi une velade européenne commentée à Tournon.
Tout à fait. Donc là, ce sera dans l'après-midi de 14h à 16h avec le lycée Gabriel Faure de Tournon.
Oui, et après, on a une animation européenne pour les volontaires en service civique.
Avec l'association Unicité de Romardèche. Ça, ce sera l'après-midi du jeudi 27 avril et nous le referons aussi le mardi 2 avril, le mardi 2 mai.
Tout à fait. Et après, pour finaliser ces mois, les activités finalement qu'on a sont deux animations européennes au Festival Libouge, le samedi 29 et dimanche 30.
En effet, l'Union bidépartementale des MJC Drôme-Ardèche organise pour la deuxième année le festival Ibouge, un festival vraiment pour les jeunes, avec pendant les après-midi, donc de 14h à 18h, plein d'animations proposées, et en soirée, des spectacles. Le samedi 29, on a un spectacle de rap, et le dimanche 30, un spectacle d'un humoriste très connu, dont je ne me rappelle plus le nom là tout de suite, mais il est très bien, c'est ce qu'on nous a dit. Et ça, ce sera à Étoile-sur-Rhône.
Oui, après, pour continuer, le mois de mai, c'est vraiment chargé d'activités parce que c'est le mois de... les jolis mois de mai. Et on va commencer avec cette activité de l'animation européenne aussi avec les volontaires des services civiques. Et après, le mercredi 3, on a une animation européenne d'atelier à médiation culturelle.
Tout à fait, avec les jeunes de la Maison des adolescents Drôme-Ardèche.
Et un quiz sur l'Europe en direct sur Facebook pour lancer le joli mois de mai aussi.
Voilà, comme tu
dis, la fête de l'Europe.
C'est ça, c'est la fête de l'Europe le 9 mai. Et donc, on fait le joli mois de l'Europe, le joli mois de mai, pendant tout le mois, avec le mercredi 3 mai, entre 18 et 20 heures, un quiz en direct live Facebook pour voilà, tester vos connaissances sur l'Europe. Et on pourra découvrir qui a bien répondu et qui a gagné des lots, des petits lots cadeaux sur l'Union européenne.
Et pour les jours suivants, on a une animation du conseil du département du Gène de la Drôme.
Voilà, le jeudi 4 mai, nous serons avec toute la journée avec les jeunes élus du conseil départemental des jeunes.
Pour mercredi 9, jeudi 10 de mai, on a une fête de l'Europe à Saint-Péret avec le jumelage.
C'est le mardi 9 et le mercredi 10.
Ah oui.
Et on va du coup là proposer des activités le mardi 9 après-midi et le mercredi 10, notamment sur le marché de la place de Saint-Péret. Donc si vous êtes dans le coin à Saint-Péret le mercredi 10, n'hésitez pas à passer. Nous proposerons des activités, des petites choses à déguster, des balades européennes pour découvrir ou redécouvrir Saint-Péret et que fait l'Europe dans le coin. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que la Maison de l'Europe organise avec le jumelage de Saint-Péret et la ville.
Et nous continuons cet agenda avec une simulation parlementaire au lycée professionnel agricole, jeudi 11.
Voilà, ça ce sera à Valréas. On descend un petit peu, on change même de département, mais bon, c'est juste à côté, au sud. Donc le jeudi 11, on sera toute la journée à Valréas avec le lycée agricole pour parler justement, là encore, comme aujourd'hui, nous en avons parlé, des questions alimentation et agriculture avec une simulation en jeu de rôle du Parlement européen.
Et finalement, on a une journée de l'Europe au lycée Saint-Denis des Annonay aussi. Eux et la projection de va de Nos Soleils Pris Luz au cinéma romain qui sera à 19h30 jusqu'à 22h30.
Voilà. Donc, sur le vendredi 12, là, c'est un des temps forts auxquels on vous convie également sur le mois de mai. Une projection débat du film catalan, Nos Soleils. Un film qui traite des enjeux entre l'agriculture, le foncier agricole et les panneaux photovoltaïques. Un film très, très, très chouette et qui est en lice pour obtenir le prix Luxe du cinéma européen 2023. Et nous allons, du coup, en collaboration avec le Ciné Lumière de Romans, organiser une projection débat. La projection aura lieu à 20h. Nous vous accueillons à partir de 19h30 pour un temps convivial d'apéritif. La projection aura lieu à 20h et puis elle sera suivie d'un débat en présence notamment de l'eurodéputé Michel Rivasi. Il y aura également l'intervention de l'eurodéputé Irène Tolleré qui ne pourra pas être présente mais qui interviendra à distance. Et également la présence d'intervenants représentant les intérêts du secteur dans le domaine agricole et des énergies renouvelables. Donc voilà, ça promet des échanges très intéressants autour de ces questions-là et puis la possibilité de voir ce film gratuitement puisque toute la soirée est gratuite. Elle est notamment financée par le Parlement européen, le bureau du Parlement européen en France. Voilà donc pour, en tout cas, les événements dans le mois qui suit jusqu'à mi-mai. On reviendra vers vous pour la suite du mois de mai. Mais voilà, sachez que le joli mois de l'Europe approche et que vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de venir nous rencontrer sur de nombreux temps publics que nous allons proposer. Et maintenant, place à une deuxième pause musicale. Blanca, qu'est-ce que tu nous as proposé?
Oui, pour la deuxième proposition, j'ai choisi Lose Control de Medusa, qui vient d'Italie. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge, just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control?
Direct de Bruxelles.
Et voilà maintenant le moment de notre actualité en direct de Bruxelles. Donc, Ardiana, aujourd'hui, tu nous as préparé quelque chose de saison. C'est le printemps et du coup, on parle de biodiversité. C'est bien ça?
Tout à fait. En regardant les beaux paysages du printemps et les belles couleurs, on pense forcément à la biodiversité et ce qu'on fait pour la protéger au niveau de l'Union européenne. En effet, le constat de départ, il n'est pas très, il est un peu inquiétant, pas très optimiste, malgré des satisfactions notables, mais quand même des choses restent, beaucoup de choses restent à faire et à améliorer. Ce constat que la Commission européenne fait pour l'instant, il est basé sur le rapport Planète vivante 2022. C'est un rapport qui est publié depuis 1998, tous les deux ans, et qui mesure l'état de la biodiversité sur la planète, c'est-à-dire à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et c'est sûr que voilà, les résultats, les preuves sont accablantes, puisque la population des vertébrés sauvages, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens, elle a décliné de 69% en moyenne. Et en Europe, 9% des espèces d'abeilles et de papillons sont menacées. Donc, il y a, et les causes de l'effondrement de cette biodiversité sont toujours liées pour la plupart à l'activité humaine, puisqu'il y a une restriction des zones dans lesquelles vivaient ces espèces du fait de la dégradation des terres. Et après, il y a l'intensification de l'agriculture et de la pêche qui ont pesé sur la qualité des habitats et le fonctionnement des écosystèmes. Vu cet état des choses, l'Union européenne met en place une stratégie sur la biodiversité. Elle est mise en place régulièrement et à chaque fois revue.
Réévaluée.
Voilà, réévaluée.
En fonction de l'état, justement, de la dégradation.
Tout à fait. Et donc, il y a une nouvelle stratégie pour l'année 2020-2027, qui est mise en place et qui porte un objectif ambitieux pour l'horizon 2030. Qui repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la protection des milieux naturels. Et d'ici 2030, 30% des terres et des mers européennes devront en bénéficier. Et une attention particulière doit être accordée aux forêts. Et pour ce premier pilier de la protection des milieux naturels, l'Union européenne s'appuie sur son réseau Natura 2000. Et après, il y a un deuxième pilier qui consiste à restaurer la biodiversité. Parce que voilà, d'un côté, on protège et de l'autre côté, on fait des efforts pour restaurer la biodiversité. Et dans ce cas, il s'agit de privilégier l'agriculture biologique, la biodiversité dans les paysages agricoles, d'enrayer le déclin des pollinisateurs qui sont tout ce qui est abeilles, papillons, bourdons, de rétablir le courant libre sur 25 000 km de cours d'eau, de planter 3 milliards d'arbres ou encore de réduire de moitié l'usage de pesticides, mais aussi leur degré de nocivité.
Wow, donc
le programme, il est vraiment ambitieux. Mm. Et pour ce programme ambitieux, il y a un coût aussi qui est estimé et que, justement, la Commission européenne va le financer dans le cadre du programme LIFE. C'est un programme qui assure les fonds, justement. Et ces fonds sont en augmentation puisque 2014-2020, on avait 3,5 milliards d'euros. Pour la période 2021-2027, on est à 5,4 milliards d'euros. Et il ne faut pas aussi oublier que la Commission européenne estime que la somme qui sera consacrée à la protection de la biodiversité, financement européen, financement national et privé confondus, va atteindre la somme de 20 milliards d'euros.
Oui. Donc des moyens conséquents qui sont mis sur la protection et la restauration de la biodiversité.
Tout à fait. Et cette biodiversité se joue à plusieurs échelles. Se joue à l'échelle internationale aussi. Et sur l'échelle internationale, l'Union européenne aussi participe. Et on fait surtout attention dans les accords, dans les engagements bilatéraux et multilatéraux. Il faut, dans tous ces accords, l'Union européenne s'engage à respecter la biodiversité. Il ne faut pas oublier, juste pour rappel, en décembre 2022, les Nations unies ont adopté un cadre mondial pour la biodiversité. C'était la COP 15. Et l'accord auquel participent l'Union européenne et ses États membres prévoit la protection de 30% des terres et 30% des mers de la planète à échéance 2030. Donc c'est non négligeable la protection de ces surfaces à 30% au niveau mondial. J'ai parlé un peu du programme Natura. Mm. En effet, il faut expliquer un petit peu plus parce que c'est un réseau très important de l'Union européenne. Il a été créé en 1992 et il répertorie des zones de l'Union européenne qui contiennent une faune et une flore qui sont dotées d'une grande valeur patrimoniale. Et les sites répertoriés sont soumis à des règles précises afin de permettre la conservation d'espèces et d'habitats particulièrement menacés.
Par exemple, pour certains d'entre vous, ont peut-être déjà visité des zones Natura 2000 dans notre région, en Drôme, en Ardèche. Par exemple, pour ceux qui connaîtraient, la forêt de Soue est un espace qui est classé Natura 2000.
Tout à fait. Justement, en France, le réseau Natura 2000 couvre près de 7 millions d'hectares, soit 12,9% du territoire terrestre hexagonal. Et là, 43% des forêts, 29% de prairies et de landes et 20% de zones agricoles. Et d'ailleurs aussi, à la forêt de Soue, j'ajoute aussi les hauts plateaux du Vercors. Pareil, c'est un site protégé du réseau Natura. Et le site, il est géré par des acteurs de terrain, ce qui est très bien aussi parce que c'est eux qui ont une meilleure lisibilité du terrain. C'est les collectivités territoriales, les associations locales, les habitants, les usagers et les entreprises. Il ne faut pas oublier aussi que le réseau Natura 2000 concerne également 34% de la surface marine française.
Oui.
Et là, l'estuaire de la Gironde, par exemple, constitue voilà, des espaces protégés par réseau Natura 2000. Il y a deux directives aussi européennes, directive Habitat, qui concerne la conservation des habitats naturels et qui instaure des mesures afin de préserver certaines espèces listées, telles que les interdictions de leur commerce, par exemple. Toutes ces espèces protégées, on interdit leur commerce, leur cueillette, leur capture ou bien la détérioration de leur environnement.
Mmh. Dans notre région, par exemple, à ma connaissance, l'apron du Rhône, qui est un petit poisson qui est vraiment endémique du Rhône et des rivières affluentes, comme la Drôme, par exemple, et fait partie des espèces protégées.
Voilà. Il est interdit de le pêcher.
La directive Habitat.
Voilà, directive Habitat. Il y a l'autre directive oiseaux qui concerne la conservation des oiseaux sauvages et elle est adoptée en 1979 et qui a pour objectif voilà, la protection des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen et des États membres. Donc voilà, tous ces efforts de l'Union européenne pour protéger la biodiversité, les objectifs sont ambitieux pour 2030. Protéger 33% des surfaces de la mer et de la terre de l'Union européenne.
C'est vrai qu'on voit qu'il y a un certain nombre de politiques mises en place depuis longtemps et que malgré ça, la biodiversité continue de décliner.
De décliner.
Donc, il y a vraiment de gros efforts, probablement
faire,
en lien avec, en effet, l'artificialisation de certaines surfaces,
faire
type d'agriculture.
Oui, l'agriculture,
aussi,
exactement.
Qui peut beaucoup faire changer la donne.
Tout à fait, protéger les forêts. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont mis deux objectifs, protéger et restaurer de l'autre côté, pour que, voilà, on puisse récupérer au maximum.
Bien, merci beaucoup, Ardiana, pour ce point sur l'action de l'Union européenne pour la protection en faveur de la biodiversité. C'est comme ça qu'on va conclure l'émission de ce mois d'avril 2023. Merci beaucoup à Blanca, à Ardiana.
Merci aux auditeurs aussi.
Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Et puis,
on vous attend
voilà,
le
on
mois
vous
prochain.
Donne, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le joli mois de l'Europe, le mois de mai. À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous. Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.